Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en ce lundi pour un nouveau numéro de Tech Hebdo. On est très heureux de vous retrouver pour toute l'actualité tech de ce début de semaine. Salut Jérôme.
Salut François. Bonjour à tous. En effet, nous sommes ravis. Voici le sommaire. Cette semaine, tenez-vous bien, on va vous parler du casque de réalité virtuelle d'Apple. Alors non, nous n'allons pas vous annoncer sa sortie, malheureusement. Mais la sortie pourrait être peut-être prématurée, on verra.
Jérôme, au MWC de Barcelone, HMD a présenté un smartphone qui se répare.
Bonne idée.
C'est une très bonne idée. Un porte-parole de Nokia sera avec nous tout à l'heure pour nous expliquer tout ça.
Ces petites applis qui font notre bonheur, ces applis qui nous transforment, qui changent notre apparence grâce à l'intelligence artificielle, on en parlera également, vous découvrirez une sélection plutôt pas mal.
Avec Eva Serraiol de la rédaction de Tech & Co. Vous restez avec nous, merci en tous les cas et bienvenue dans Tech Hebdo.
Et oui, nous sommes ravis de vous retrouver, comme tous les lundis soirs, sur Tech & Co pour votre Tech Hebdo. Et 26 minutes de
pour
tech.
Pour tout savoir sur l'actu tech de ce début de semaine, qui est assez chargé, vous allez le voir dans un instant. Je vous rappelle que, bien sûr, vous pouvez nous retrouver, comme Jérôme l'a dit, sur la chaîne Tech & Co sur les box, sur YouTube aussi, et sur le site de Tech & Co. N'hésitez pas, et sur l'appli aussi RMC BFM Play. Jérôme, l'actualité, on y va?
Voilà.
On se plonge dedans?
Exactement, on commence par l'actu tout de suite. L'actu avec toujours la crème de la crème de la rédaction de Tech & Co. Nous accueillons aujourd'hui Louis Membe. Bonjour.
Bonjour.
Salut Louis.
Salut François.
Merci d'être là. Alors Louis, dans l'actu, on va revenir sur ces frissons. Enfin, quand je dis frissons, c'est même plus que ça. Sur la panique financière.
Frayeur.
Qui est en train de vivre la Silicon Valley avec la faillite de cette banque, hein, la Silicon Valley Bank. Et on se pose des questions. Est-ce que ça va avoir un impact évidemment sur toute la tech, alors à la fois la tech en Californie, mais peut-être aussi au niveau de la tech mondiale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé?
Bah oui, en fait, donc la Silicon Valley Bank était l'une des principales banques de l'industrie tech. Elle a été fermée en fait vendredi dernier par les autorités américaines. Elle était spécialisée en fait dans le financement de start-up. Et en fait, la banque a été placée donc sous la tutelle de l'agence américaine chargée de garantir les dépôts, du coup pour faillite.
Donc, il y a les causes et les conséquences.
Oui.
On dit un petit mot des causes, tout d'abord. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé initialement?
En fait, la Silicon Valley Bank, en fait, elle a fait les frais en fait, de retrait d'argent massif de la part de ses clients.
Que toutes les startups ont voulu retirer de l'argent en même temps.
Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Exactement. Et du coup, en fait, l'établissement ne pouvait plus faire face à ces retraits et donc a été déclaré en faillite. Également, en fait, elle a annoncé qu'elle cherchait des liquidités justement pour faire face à ces retraits. Et en fait, ça a entraîné, en fait, la SVB a perdu au moins 60% de sa valeur à la bourse de New York dès le lendemain.
Alors après, c'est toujours la même mécanique qui se met en route. Hein. Beaucoup de tentatives de retrait d'un seul coup. Du coup, on bloque et ce sont les autres après qui ne peuvent plus retirer et même accéder à leur argent.
Ah oui, c'est ça, exactement. Bah, en fait, il y avait un montant de dépôt maximum que ces entreprises du coup peuvent retirer, qui est de 250 000 dollars.
Ce qui est beaucoup et peu finalement, parce
qu'il n'y a rien du tout.
Voilà, il faut payer des salariés 250 000 dollars. Si vous avez une boîte avec 100 salariés, fini.
Exactement.
Résultat, en fait, donc ça menace quand même tout un pan de l'écosystème de la Silicon Valley. Ça pourrait avoir du coup des conséquences sur le financement de nombreuses startups qui, pour le moment, ne peuvent plus verser de salaire ou ils sont obligés de mettre des gens au chômage ou même de les licencier carrément.
Ça, parce qu'ils ne peuvent pas les payer. Non pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce que l'argent n'est pas sur le compte de la banque en question.
Quand une banque craque
c'est pas bon.
On sait ce qui peut se passer, là, maintenant
Pour l'instant, en fait, si vous voulez...
Un repreneur, peut-être.
Il y a effectivement des... Enfin, en tout cas, pour la branche américaine, pour l'instant, il n'y a aucun repreneur.
Ouais.
Il y a juste la branche britannique qui a été rachetée, du coup, ce lundi par la HSBC.
Mm-hmm.
Pour le reste, la situation reste encore un peu difficile.
Alors, rappelons que le gouvernement reprend la main là-dessus et a voulu être
Ouais, pour limiter les frais et pour éviter...
Rassurant, pour dire, bah, attendez, ne vous inquiétez pas, de toute façon, voilà, on va régler le problème et on donnera les liquidités qu'il faut à cette banque pour qu'elle puisse honorer, en tout cas, ses retraits. C'est étonnant. Hein,
bah ouais, parce que alors, c'est des startups qui ne sont pas forcément très connues parce que c'est des jeunes pousses, des très jeunes pousses, mais effectivement, c'est toute une part de l'économie de l'innovation autour du numérique aux États-Unis. Bon, voilà.
Bon, on aura l'occasion, évidemment, de revenir sur ce sujet dans d'autres émissions sur la chaîne Tech & Co. Jérôme, le casque VR d'Apple.
Tiens. Oui, alors le casque VR d'Apple, si on en parlait, tu l'as testé, je crois.
Mais bien sûr, écoute, je l'ai là, il est invisible. Plus sérieusement.
Non mais on l'attend, ça fait partie des trucs qu'on attend le plus cette année, en 2023. Et apparemment, eh bien, il devrait sortir, et peut-être même plus tôt que prévu.
Oui, effectivement. En tout cas, Tim Cook et Jeff Williams, qui est le directeur de l'exploitation en fait, chez Apple, en tout cas font pression pour que ce casque de réalité mixte sorte cette année. A priori, pour être présenté en juin 2023, à l'occasion de l'Apple Worldwide Developer Conference. Et voilà, c'est une information qui a été corroborée par le Financial Times. Mm-hmm. Le seul souci, c'est que c'est une décision un peu étonnante qui va un peu à l'encontre en fait, de l'équipe de conception du casque, qui n'est pas forcément favorable.
Ça, c'est pas bon signe. Hein.
Un peu.
Si les ingénieurs vous disent non, on n'est pas prêt et que le boss dit si, il faut y aller, ça s'est jamais très bien terminé, ces histoires-là.
Ils estiment que le casque, il n'est pas totalement prêt, en tout cas, à être commercialisé. Ils aimeraient en fait affiner encore davantage la technologie pour aboutir. Pas un casque, mais à des lunettes, pour que le matériel soit plus léger. Mais en gros, il va falloir attendre quelques années supplémentaires de développement, sachant que le casque est déjà en développement depuis 7 ans et qu'effectivement, Tim Cook et Jeff Williams poussent vraiment pour le sortir cette année.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une impatience de la part de dirigeants d'Apple qui veulent sortir ce casque. Ils n'ont peut-être pas envie de se faire doubler par un Google ou par un Samsung ou par d'autres. Ils ont peut-être envie très vite. Et puis, si ça fait 7 ans, vous imaginez, ça a dû coûter des milliards et des milliards de développement. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même le sortir. Visiblement, il coûterait très cher, ce casque.
Assez, 3 000 $.
Pour un casque qui n'est pas terminé, en plus.
Non, qui servira de temps en temps. C'est ça, exactement. Ça vaut le coup.
En fait, Apple prévoit d'en vendre pour 1 million d'unités. Ils espèrent en tout cas obtenir une part de marché de 10% sur le marché des casques verts. Ils aimeraient bien, en fait, essayer de s'y introduire dès maintenant. Et du coup, ils vont mettre les gros moyens, grosse campagne de publicité, tout ce qu'il faut pour promouvoir au maximum le produit.
C'est sûr qu'Apple ne peut pas arriver sur ce marché sans faire un truc fracassant.
Avec un petit communiqué de presse. Trop fort, hein.
Un petit communiqué de presse en loose day.
Bon, écoutez, on verra si cette année 2023 sera l'an 1 de la VR pour Apple.
On a hâte.
Sujet très intéressant aussi.
Allez, on reste dans la Silicon Valley avec géant.
Mais un autre géant de la VR aussi.
De la VR.
Facebook et Meta.
Tout à fait.
Sauf qu'on ne va pas parler de cette activité-là chez Facebook. Facebook, il travaillerait, et ça, c'est quand même le scoop de ce week-end. Il travaillerait sur un nouveau réseau social.
Oui, c'est une information qui a été confirmée par Meta auprès de l'AFP. On a peu d'informations sur ce projet de réseau social, sauf que il ressemblerait beaucoup à Twitter. Ce serait un réseau social qui permettrait de partager des messages écrits en temps réel. Il serait rattaché à l'univers d'Instagram. Vous servirez des identifiants Instagram pour vous connecter à ce nouveau réseau social. Et surtout, ça serait un réseau social qui utilisera en fait un protocole réseau décentralisé, un peu à l'instar de Mastodon, ce qui lui permettrait justement d'être compatible avec Mastodon. Mm-hmm. Et pour le moment, on n'a aucune date de lancement. Donc le projet, pour l'instant, reste pour l'heure un peu incertain, mais c'est dans les tuyaux.
Ouais, ce ne serait pas anodin si Meta sort une nouvelle plateforme. Après, il va falloir qu'ils rassurent quand même, parce qu'ils n'ont pas une super bonne image aujourd'hui en termes de... et notamment en Europe, en termes de données personnelles et compagnie. Mais avec cette orientation un peu décentralisée, ça peut peut-être donner des gages.
Ouais, c'est clair.
Totalement. Et vous essayez aussi de profiter aussi de la fragilité de Twitter. Et en ce moment, on sait très bien que Twitter, c'est un peu compliqué pour eux depuis l'arrivée d'Elon Musk.
Il y a peut-être une fenêtre de tir, justement, pour proposer un réseau social concurrent à Twitter.
Totalement.
Avec la force de frappe, quand même, d'Instagram et de Meta. Parce que si, effectivement... tout le monde peut se connecter avec ses identifiants Meta, tout de suite, tu as potentiellement des milliards d'abonnés qui peuvent arriver, quoi. C'est ça qui est fort.
Totalement. Et puis en plus, on sait aussi que Meta est sous pression avec TikTok aussi. Donc forcément, ils cherchent aussi également des nouveaux débouchés, des moyens de diversifier un peu leur catalogue.
Ben voilà, c'est la dernière news de Mark Zuckerberg, qui décidément, on en a une toutes les semaines, hein. Rappelez-vous.
Et le métavers, on a des nouvelles? On en parle un peu moins.
Il est dans son monde, là. Il peaufine encore. Ouais, tu vois, il a les tournevis, etc. Sûr. Pour voir si tout fonctionne bien. Il nous reste, à 2 minutes pour évoquer justement TikTok. L'étau se resserre encore sur TikTok, et notamment du côté de l'Angleterre.
Oui, il y a un rapport du Centre national de cybersécurité britannique qui établit que TikTok représente un risque identifié pour les informations sensibles. Le Premier ministre du Royaume-Uni, donc Rishi Sunak, ne devrait pas avoir d'autre choix que de suivre les recommandations de cet organisme et de faire supprimer l'application des smartphones des fonctionnaires. C'est pas forcément son souhait. Il aimerait plus faire preuve de pédagogie. Mais en gros, c'est quand même une décision qui suit une tendance générale. TikTok et
aux États-Unis, européenne.
La moitié des États américains ont déjà interdit TikTok, idem par la Commission européenne. Donc c'est une tendance de fond que le Royaume-Uni.
Alors rappelons que ce ne sont que les employés du gouvernement britannique.
Oui,
pas aux citoyens d'utiliser plus TikTok. On peut imaginer que c'est pour des questions de sécurité nationale.
Exactement.
Ça a été décidé en Angleterre, aux États-Unis ou en Europe.
Sait que les Occidentaux craignent en termes de menaces en matière de cybersécurité, de protection des données personnelles avec TikTok, donc ils prennent leurs précautions.
Merci beaucoup, Louis.
Merci à vous.
De ce début de semaine avec Louis Mbembe de la rédaction de Tech & Co, Jérôme.
Vous restez avec nous, on va parler de smartphone et on va parler d'éco-conception tout de suite avec notre invité.
Jérôme, on a des nouvelles de Nokia HMD.
Oui, Nokia HMD. Et on va en parler avec notre invité Rémi Giraud, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Rémi.
Directeur France de HMD Global, HMD, entreprise qui fabrique aujourd'hui les smartphones de la marque Nokia.
Exactement.
Sous licence Nokia.
Voilà,
2016.
Exactement.
2016.
Et qui a créé l'événement au Salon Mobile World Congress le MWC,
C'est ça, c'est mieux.
De Barcelone, avec une annonce qui est assez intéressante, un smartphone éco-conçu, on va dire.
Exactement. Exactement. Alors oui, ça a créé l'événement. On a eu beaucoup de retours, à la fois au niveau de la presse, au niveau de nos clients. Et on a annoncé, en effet, un produit réparable.
Réparable,
En partie réparable.
Alors, parlez-nous de ce G22.
Nokia G22, c'est un produit, en effet, qui est réparable sur 4 modules, donc qui sont l'écran, la batterie, la back cover et une partie de la connectique. On a lié un partenariat avec iFixit, telle sorte à ce que le consommateur ou même le centre de réparation puisse avoir accès de manière beaucoup plus facile à toutes ces pièces et puisse les réparer par eux-mêmes.
iFixit, qui est un site américain spécialisé dans le démontage benchmark
Des kits de réparation des smartphones, d'ailleurs.
Kits de réparation des smartphones, donc c'est une société californienne, qui a maintenant 20 ans. Ils ont fêté leurs 20 ans cette année. Le partenariat nous a semblé judicieux, puisqu'en effet, pour avoir accès à toutes ces pièces détachées, il faut les outils adaptés. C'est un téléphone, bien entendu, vous savez qu'il y a des vis particulières, vous le voyez à l'écran. Il faut pouvoir démonter la back cover. Et tout ça, avec le partenariat iFixit, ça facilite bien la tâche.
Parce que quand on dit réparable, tous les smartphones sont quasiment réparables, sauf que là, l'idée, c'est de le réparer soi-même.
Alors voilà, la grande innovation, puisqu'en effet, un produit est fait pour être réparé, en centre de réparation, la grosse innovation, c'est de pouvoir donner accès donc au client final, à des outils qui lui permettent à terme de rechanger soit sa batterie, soit son écran, soit sa back cover. Donc ça, c'est vraiment le partenariat avec un parcours client qui est très simple. En effet, on lui donne accès via notre site à travers le produit. Lorsqu'il veut avoir la possibilité de changer une des pièces, il le fait et il a un parcours client très simple. Il est redirigé vers iFixit et à partir de là, il a accès aux pièces détachées ainsi que le kit de réparation. Et avec un petit tuto, des tutos qui sont très bien faits, puisque iFixit, c'est vraiment le spécialiste du tuto, en moins de 20 minutes, la personne peut faire changer son, son écran ou sa batterie.
Mais c'est juste pour s'amuser ou il y a un vrai intérêt financier ou environnemental?
Alors, il y a plusieurs sujets, en effet, à travers ça. Il y a un sujet environnemental, puisqu'on s'engage, nous, HMD Noica, depuis
maintenant. Oui, ça a été présenté comme ça. Hein,
exactement. Exactement. Donc, la genèse du projet, c'est environnemental. Comme vous le savez, il y a des sujets RSE qui tournent, bien entendu, à tous les niveaux. Mm-hmm. On se doit, en tant que constructeur, d'animer ce sujet et de participer, d'avoir un rôle participatif à ce sujet d'envergure. Donc, ça a été vraiment la genèse du projet. On a lancé, les années précédentes, des produits éco-conçus, mais pas réparables. Donc, éco-conçus qui intègrent des matériaux recyclés. Mm-hmm. Là, on va au bout de l'histoire, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité de réparer le produit avec également, donc si je prends l'exemple de la back cover, qui est une back cover issue de produits 100% plastique recyclé.
Rémi Giraud, une petite question sur... C'est facile à fabriquer un téléphone qui est facilement réparable?
Et ben,
parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a malgré tout des impératifs de design, d'étanchéité.
Exactement.
Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que démonter un smartphone, c'est pas comme si on démonte, je sais pas moi...
Mais s'ils sont pas réparables, c'est qu'il y a une raison.
Voilà, c'est ça. C'est
exactement. Même...
C'est compliqué de faire.
Exactement, c'est pour ça que le processus a pris du temps, puisqu'en effet, c'est un travail de R&D, donc de recherche et développement, de telle sorte à ce que le produit soit éco-conçu et réparable. Ce qui veut dire qu'on utilise beaucoup moins de colle, les produits sont vissés au lieu d'être collés, donc tous les modules sont séparables. Ce qui intègre en amont de la R&D et puis un produit qui conserve en effet son étanchéité. Je prends le cas du Nokia G22, c'est un produit IP52, donc qui résiste à la poussière et à l'humidité.
Oui, mais
Il n'est pas IP68.
Il n'est pas IP68.
Donc on le fait tomber dans la piscine, c'est cuit.
Alors, si on le fait tomber dans la piscine, en effet, ce n'est pas un produit qui résiste à ce type d'aléas.
Parce que justement, comme il est éco-conçu et facilement démontable, on n'arrive pas aujourd'hui à faire un téléphone qui soit IP68, mais qui soit facilement démontable par ailleurs.
À l'instant. Pour le moment, on est en effet sur l'IP52. La roadmap à venir va intégrer des produits avec de l'IP68, avec des niveaux de réparabilité
d'accord.
qui seront encore beaucoup plus
donc
accessibles.
Donc il y aura une progression dans ce truc-là.
Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une étape sur plusieurs années. Là, c'est vraiment un aboutissement, puisque la réparabilité, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on est un des seuls constructeurs, avec Fairphone, à proposer ce type de service. Et bien entendu, la roadmap va intégrer dans les années à venir des produits encore plus facilement démontables, réparables, avec des niveaux d'étanchéité, bien entendu, qui vont s'approcher d'IP68.
C'est l'objet. Et avec des spécifications techniques aussi au diapason, c'est-à-dire
alors, voilà.
Je me retrouve avec quel type de téléphone?
Alors, l'enjeu, en effet, c'est de retrouver un produit avec un prix abordable. Donc, là, on est en dessous de la barre des 200 euros. Donc, là, on a la version 464 qui est à 179,90 et la version 428 qui est à 199,90. Donc, déjà, on est sur un prix accessible. Mais ça veut pas dire qu'on est avec un produit technologiquement dégradé par rapport à la concurrence. Donc on s'est forcé à avoir, notamment au niveau de la caméra, qui est un point essentiel, une caméra 50 mégapixels. On a une batterie également de haute performance, 5000 mAh. On a un chipset qui est très performant. Donc on n'a pas voulu dégrader l'expérience client. Ça, c'est vraiment un objectif.
Est-ce que véritablement, il dure plus longtemps qu'un smartphone classique?
Alors, soyons clairs, la garantie aujourd'hui du device, portable est garanti 3 ans. Donc c'est 3 ans de garantie qui est issue de la garantie.
Ce qui est déjà pas mal.
Qui est très bien. Pour autant, on sait pertinemment que chaque utilisateur a déjà rencontré un problème de casse d'écran, par exemple, ou une batterie amoindrie pour des questions de mauvaise utilisation, de recharge trop fréquente. Donc là, l'utilisateur en cas de casse d'écran, ce qui est le cas le plus classique, va pouvoir accéder économiquement, et c'est là où
Combien ça coûte si je veux changer l'écran?
Alors, si vous voulez changer l'écran, alors c'est assez simple, vous l'avez un écran, c'est 49,95. Le prix de l'écran, si vous l'achetez à travers iFixit, avec le kit, vous passez à 59,99. Voilà. Donc pour moins de 60 euros, on peut changer son écran.
Qui sera en plus une pièce officielle.
Pièce d'origine, exactement, voilà. Et qui sera garantie, puisqu'à partir du moment où vous utilisez les outils iFixit et que vous le réparez à travers le processus, la garantie, bien entendu, couvrira la réparation.
Très bien. Et voilà, le premier d'une longue série de smartphones innovants, on va dire, de par leur éco-conception.
On vous souhaite de renouveler l'expérience merci. Dans le futur.
Merci.
Le G22 de Nokia.
Merci beaucoup Rémi Giraud, directeur France donc, de HMD Global, qui fabrique donc, les smartphones Nokia depuis quelques années. Merci.
Merci beaucoup.
Jérôme, on va terminer ce Tech Hebdo avec la sélection des applis de
voilà,
la semaine.
Pour mettre dans votre beau smartphone réparable, voici une sélection d'applis qui carbure à l'intelligence artificielle. Et oui, François, moi j'ai plein de photos de toi sur mon smartphone, mais j'en ai un peu marre de voir ta tête.
Un peu trop d'ailleurs.
Et parfois j'aime bien m'amuser à te transformer un peu. Oui. Voilà, je te transforme en animal ou en créature gothique.
J'en peux plus.
Ou autre.
C'est dur hein, quand même. Tech Hebdo avec Jérôme Colomba, c'est pas facile.
Bonjour Eva Serraïol.
Salut
bonjour.
Eva.
Pourquoi je raconte tout ça?
Qui fait partie de la rédaction de Tech & Co. Et de BFM Business, et qui a enquêté sur ce sujet d'appli qui permettent justement, grâce à l'IA, de faire des petits miracles. Ouais. Et tu as fait une petite sélection pour nous.
Exactement. La première appli dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Stary AI. Pas facile à dire, mais ça se tente. Alors, vous connaissez déjà DALL-E, la petite sœur de ChatGPT.
Oui.
Et ben, c'est un peu le même concept. DALL-E, en fait, pour ceux qui sont peut-être passés à côté, l'idée, c'est qu'on écrit un texte. L'intelligence artificielle, à partir de notre texte, elle va créer une image. Le problème de DALL-E, c'est que c'est que sur le web. Et bien, Stary AI en a fait une application mobile. Et ça marche très, très bien. Donc, ce qui se passe, on tape notre texte, on choisit entre une image artistique, type peinture, etc., ou une photo ultra réaliste, et l'intelligence artificielle nous crée notre truc. Point positif à Stary AI, contrairement à DALL-E, le travail autour des yeux est très très bien réalisé. C'est-à-dire que DALL-E, on avait ce côté un peu yeux de poisson globuleux.
Oui, c'est vrai.
Ça n'existe pas sur Stary AI.
Ouais, d'accord, donc c'est encore mieux que DALL-E.
C'est finalement. Encore mieux. Au niveau des photos ultra réalistes, c'est encore mieux.
Donc en fait, je peux demander à Stary AI, c'est comme ça qu'on prononce, je sais pas moi, fais-moi une photo de Jérôme Colomba en train de danser un slow avec un ours.
Exactement.
Voilà. Et on aura.
Et on aura.
On aura une photo.
Et ça, je te donnerai l'original.
Je m'en doutais un peu. Très bien, donc ça s'appelle Stary AI.
Exactement.
Cool. Deuxième appli.
La deuxième appli, c'est Lensa. Alors Lensa, c'est à première vue une appli de retouche photo assez classique. On peut notamment remplacer l'arrière-plan en un clic. Donc ça, on pouvait le faire avec Photoshop, mais en détourant, ça peut prendre du temps. Là, en un clic, c'est réglé et on remplace notre arrière-plan. Mais surtout, Lensa, elle permet de créer des avatars à partir de vos photos ou des photos de vos animaux. Et qui ne rêve pas de voir son chat en viking, son chien en scientifique? Franchement, je ne sais pas, mais moi, j'ai adoré.
Ah ouais, c'est
voilà, bien. Donc c'était un très, très bon moment. J'ai créé un avatar de mon chat en scientifique fou.
Et alors?
Ça ne sert à rien, mais j'ai adoré.
Mais
j'ai passé un très bon moment.
C'était très, c'était très drôle. Tu aurais dû
il
nous apporter la photo,
connu.
Franchement. Ça aurait été bien.
La prochaine fois, je vous l'amène.
La prochaine fois, tu l'amèneras, d'accord. Ah
ouais. Voilà, alors attention quand même, parce que la fonction Magic Avatar qui permet de faire ça, elle est payante. Hein.
Alors voilà, justement, c'est la question que je vais te poser. Stary AI, par exemple, c'est payant?
Alors, c'est gratuit.
Il y a du premium, c'est
voilà,
ça
le premium, exactement. Hein. Et si on veut plus, il faudra payer. Là, on ne peut pas avoir sans payer les avatars.
Le chat en chien,
non,
en,
là,
en savant fou.
Là, c'est limité.
Il faut payer, bon. D'accord.
C'est incroyable, en tout cas. Troisième appli.
On a Enhance Fox. Alors, un peu comme Lensa, elle va permettre de faire de la retouche photo assez facilement, notamment de rendre une photo qui est floue, moins floue, de régler les couleurs, tout, etc. Et sa particularité à celle-là d'appli, et c'est la première fois que je vois ça, elle permet de coloriser une photo qui, initialement, était en noir et blanc. Donc, pourquoi, moi, je trouve ça fou? C'est qu'il y a des scientifiques et des historiens qui le font depuis déjà des années, c'est pas nouveau.
Oui. Mais à la main.
À la main,
souvent.
Exactement.
C'est ça qui est incroyable. Il y a même des films qui ont été colorisés à la main.
Oui, bien sûr.
Et Enhance Fox m'a permis de coloriser une photo de mes grands-parents en noir et blanc en moins de 2 minutes. Et ça, je trouve que c'est quand même une très, très belle avancée.
Avec un réalisme dans le choix des couleurs?
Oui. Au niveau des couleurs des cheveux, vraiment des yeux, des vêtements. Le jean, c'était du jean. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça impressionnant.
Ah, aussi payant.
Et aussi payant. Alors pareil, on a 3-4
essais gratuits. Ce week-end, Eva s'est ruinée, en fait.
Elle a vous imaginez même pas.
Toutes les applis.
Ça, c'est Enhance Fox qui fait
Enhance
ça.
Enhance Fox, exactement. Okay. Et la dernière appli dont je tenais à vous parler, c'est Mimic. Alors, tout est dans le titre. Mimic, vous téléchargez une photo dans l'application, vous choisissez une musique, et hop, magie, l'intelligence artificielle, elle anime la photo en vous faisant chanter sur la chanson. Alors, j'ai testé avec une photo de moi. Le concept, il est rigolo, mais le résultat, il est franchement mitigé.
On voit Elon Musk, là.
C'est pas peu de le dire. Soyons honnêtes.
Oh là là, mais c'est vrai que voilà. Là, on a un exemple. La demoiselle est un peu déformée, quand même.
Exactement. Ah oui, non, mais c'était carrément flippant. C'est-à-dire qu'on dirait que ma mâchoire va se décrocher, mes yeux sont révulsés. Donc ça faisait un petit peu exorciste. Voilà. Ah ouais, il y a un concept qui est sympa, hein, là, qui est rigolo, mais qui est vraiment à travailler pour Mimic.
Là, je pense qu'il faut absolument appeler quelqu'un pour t'enlever le diable qui est en toi. Là.
Et oui, et la photo était très bien de base que j'ai utilisée. Elle est gâchée pour toujours.
Alors c'est peut-être ça.
Non,
c'est la question que j'allais te poser. C'est peut-être parce que tu as pris une photo où tu étais de profil ou je sais pas quoi, non c'était,
J'étais vraiment légèrement de profil, comme l'appli le demandait. Donc normalement,
c'est rigolo parce que t'es méconnaissable.
Méconnaissable.
En fait,
hein.
C'est pas toi.
Oui.
Hein. Donc c'est pas encore au point, visiblement.
C'est pas encore au point.
On devrait essayer. Je pense qu'on passe un bon
Je suis en train de télécharger Starry, là, et puis après, les trois autres vont suivre aussi. Hein.
C'est rigolo, toutes ces applis, finalement.
Hein. Oui.
C'est vraiment. Comme quoi, c'est super rigolo. Une petite question, quand même. On l'a vu avec de précédentes applis qui ajoutent des filtres, etc. Et souvent, on s'est rendu compte à un moment qu'il ne fallait pas en abuser, parce que, et notamment pas donner accès à toutes ces photos personnelles, parce qu'il y avait une récupération des datas derrière qui pouvait être vraiment problématique.
Alors là, avec toutes les applis que j'ai testées, on me proposait soit de donner l'accès complet à toutes mes photos, soit moi de juste sélectionner et de choisir quelles photos j'allais mettre sur l'application. Donc déjà, si on commence par là, ça permet de limiter ce à quoi l'appli aura accès. Et dans deux cas, alors je ne saurais plus vous redire lesquels, mais en tout cas, dans deux de ces applis, on m'a bien certifié, quand j'étais en train de faire mes petites créations, que les photos que j'avais téléchargées dans l'application seraient supprimées dès que mon projet serait exporté.
D'accord.
Donc, dans ces cas-là, on est quand même rassurés sur les
données. Donc, elle ne sert pas, en fait, à du machine learning pour apprendre, je ne sais pas, moi, encore d'autres choses, quoi.
Normalement, non.
A priori.
En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent sur l'appli.
Eh bien, voilà sympa, cette petite sélection d'applis bien sympathique. Merci beaucoup, Eva.
Avec plaisir, merci à vous.
Voilà, Eva Serra.
Merci.
De Tech & Co et de BFM Business pour terminer ce Tech Hebdo.
Voilà, donc on va passer une bonne soirée. Vous n'avez plus qu'à télécharger toutes les applis pour vous amuser.
Et amusez-vous. Voyez-nous les résultats les plus réussis. On compte sur vous.
On se retrouve la semaine prochaine.
On sera là, bien sûr.
D'ici là, portez-vous bien.
Et bonne soirée.
Salut à tous.
Salut à tous.